Ouais. Mais je vais commencer avec ce qui s'est passé le 15 novembre de cette année-ci. Il y avait un Américain, 27 ans, John Chow, je pense qu'il s'appelait, qui débarque seul sur l'île indienne de North Sentinel, composant apparemment, nous pensons, d'environ 150 âmes, un peuple de chasseurs-cueilleurs, intouchés, ils sont par la civilisation moderne. Selon son journal intime ce jour-là, il a approché à deux reprises les personnes, les sentinelles, où il parvient à donner à l'un d'eux des cadeaux. Mais un enfant lui décroche une flèche qui se coince dans sa Bible. Merci Seigneur. Il prend ensuite la fuite. Ce qu'on peut comprendre. Le lendemain, le 16 novembre, avant d'y retourner, il écrit ceci à sa famille. Vous pensez peut-être que je suis fou de faire tout ça, mais je pense que ça vaut la peine d'apporter Jésus à ces gens. Ce n'est pas en vain, les vies éternelles de cette tribu sont à portée de main et j'ai hâte de les voir adorer Dieu dans leur propre langue. Je vais prier pour que tout se passe bien. Il débarque une nouvelle fois, donc le 16 novembre, mais il est vite encerclé et tué à peine arrivé. Qu'en pensez-vous de cette histoire? Il me semble que nous connaissons encore un peu trop de détails pour être capables de peser certaines choses qui méritent quand même réflexion en ce qui concerne un missionnaire. Parce qu'un missionnaire ne devrait pas préparer une telle tentative seul, sans le soutien et l'envoi d'autres personnes, ça c'est clair. Était-il envoyé par une église locale? Faisait-il partie d'une équipe qui était derrière? Avait-il fait des recherches pour comprendre comment apprendre une telle langue? On ignore ces détails-là et il se peut qu'il y a bien entendu des leçons à apprendre. Mais au niveau de son courage, sa motivation telle que ses écrits la révèlent, ben, il n'y a rien à lui reprocher. Mais la réaction de notre culture, qui s'oppose à toute conviction forte religieuse, c'était de critiquer cet homme pour le danger qu'il posait à ce peuple non immunisé des maladies occidentales, mais aussi pour le critiquer pour son esprit intolérant en ce qui concerne la culture du North Sentinel et aussi colonisateur. Ça, c'est la culture qui nous entoure. Mais qu'en est-il de nous, dans l'Église? Qu'en pensons-nous? Était-il fou quand même, à 27 ans, de faire une chose pareille? Ce qui m'amène à poser cette question-ci, sommes-nous prêts, nous ici rassemblés, à mourir en tant que disciples de Jésus-Christ? Sommes-nous prêts à mourir pour la foi? Certains parmi nous, vous diriez à juste titre, non, je ne suis pas prêt. Alors, je ne considère pas encore disciple même de Jésus-Christ. Je ne vois pas pourquoi je devais me soumettre ah, Jésus-Christ, c'est compréhensible que vous pensez ainsi. Mais pour d'autres, nous nous disons croyons en Christ. Et toutefois, je pense qu'il y a hésitation, n'est-ce pas, sur ce point. Ne puis-je pas suivre Jésus de manière à ce que cela ne soit pas aussi coûteux que cela? Ben voilà, nous trouvons en Daniel. Daniel lui-même, dans ce chapitre 3, n'apparaît pas. Est-il ailleurs dans le royaume babylonien à ce moment-là, quand il y avait cette cérémonie? On ne sait pas. Il aura 100 tours d'épreuve au chapitre 6, avec des lions. On arrivera à ça d'ici quelques semaines. Mais souvenons-nous qu'au chapitre 2, Daniel avait interprété la vision du roi Nebuchadnezzar. Une vision qui terminait avec un appel de ne pas courir après les royaumes et les puissances de ce monde, mais plutôt de mettre l'accent sur le royaume de Dieu, car ce royaume-là durera éternellement. Et il se peut que nous ayons dit, il y a 15 jours, lorsque nous avons entendu cela, oui, moi je veux consacrer ma vie à ce royaume-là, chercher, comme disait Jésus, d'abord le royaume de Dieu. Bon, merci Seigneur, mais c'est facile à dire cela, n'est-ce pas? Lorsque nous écoutons une prédication le dimanche matin sur des chaises bleues importées de la Chine. Mais le chapitre 3 nous met en évidence ce qu'un tel engagement peut engendrer pour nous. Car ces trois jeunes hommes, amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont jetés, rien que pour la foi, dans l'ardente fournaise. Et c'est pour cette raison-là que j'ai intitulé la première leçon pour nous, il n'y en a que deux sur le dos de votre feuillet, celle-ci, adorer uniquement le Dieu vivant et vrai dans ce monde vous coûte la vie. Et tout de suite, j'entends des corrections. Pourrez si vous coûtez la vie, non? C'est plutôt ça. Non, j'ai bien écrit « coûte la vie » car nous devons nous rappeler ce que Jésus nous a dit. Marc chapitre 8, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Se charger de sa croix, c'est d'accepter que je meurs. La croix est un symbole de la mort. Je meurs à moi-même. Je perds ma vie, comme disait Jésus par la suite, afin de la gagner. C'est le pasteur Bonhoeffer, un Allemand mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui disait que quand Christ appelle un homme, il lui dit « Viens et meurs ». Quand Christ appelle un homme, il lui dit « Viens et meurs ». Est-ce que vous savez cela? Tout chrétien n'est pas appelé à mourir en martyr, comme ce fut le cas pour Bonhoeffer dans une prison hitlérienne. Mais nous sommes tous appelés à mourir, à nous-mêmes, à suivre Christ. Quoi que cela nous coûte. Ces trois amis de la Judée en Israël se trouvent en exil, en Babylone. Ils sont des hauts fonctionnaires de l'État babylonien, au service du même roi responsable pour leur ville sacrée qui a été envahie, Jérusalem. Au chapitre 1, de ce livre, nous avons suivi la formation de ces trois hommes. Ils étaient assimilés à leur nouveau pays. Ils apprenaient la langue, la culture. Ils recevaient les nouveaux noms babyloniens. Et Dieu permettait que dans sa main providentielle, la prospérité arrive à Daniel et à ses trois amis. Mais si le chapitre 1 nous laisse à penser à nous, chrétiens qui sont également des exilés, selon le Nouveau Testament, étrangers dans ce monde, si ce chapitre 1 nous laisse à penser que c'est encore possible pour le peuple de Dieu de s'intégrer et réussir dans un contexte païen, le chapitre 3, celui-ci, révèle à quel point une telle réussite est fragile, n'est pas garantie pour nous les chrétiens. Au chapitre 2, la vision du roi, rappelons-nous, commençait avec une statue qui avait la tête en or. Daniel avait expliqué que la tête en or représentait le royaume de Nebuchadnezzar. Mais la vision montrait que le royaume de Nebuchadnezzar ne durera pas pour toujours. D'autres royaumes succéderont au sien. Mais c'est comme si, au chapitre 3, Nebuchadnezzar n'a pas bien compris. Car le voici, début du chapitre 3, en essayant de faire son maximum pour que son royaume, après tout, persiste. créé une énorme statue, 27 mètres de haut, presque 3 mètres de large. Non pas avec la tête en or, mais l'ensemble en or. Quelle statue impressionnante! Et ce n'est peut-être pas simplement un projet purement égoïste, on pense ainsi, quel orgueil qu'il a! Mais c'est probablement aussi un projet rassembleur pour le pays, l'Empire babylonien, pour que ce royaume aussi grand qu'il soit se tient. Il faut qu'il y ait quelque chose qui colle les citoyens de cet empire ensemble, une religion de l'État pour nous unir sous la même bannière. Et comme tout État totalitaire, il faut l'allégeance absolue. Verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et tous les dirigeants du pays, toutes les parties prenantes de la société babylonienne sont convoquées à la cérémonie d'inauguration. Plusieurs reprises dans le texte, nous avons entendu parler, n'est-ce pas, de l'ensemble de tous ces fonctionnaires de l'État qui sont rassemblés. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces. Une immense foule! Et en grande fanfare, avec les meilleurs musiciens convoqués pour l'occasion, sans doute avec des nouvelles compositions pour marquer cette grande occasion, tout un orchestre de trompettes, chalumeaux, qu'est-ce que c'est que ça, je ne sais toujours pas, des guitares, des sambuques, ça non plus, je ne sais pas ce que c'est, des psaltérions, cornemuses, et toutes sortes d'instruments de musique. Et à ce moment-là, impressionnant, ils doivent tous se prosterner devant la statue. Mais il y a trois amis, jeunes hommes judéens, Shadrach, Meshach, Abednego, qui refusent de faire cela. Ce n'est pas, notons bien, qu'ils font exprès pour se faire remarquer. Non, 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 on ne le fait pas, vous entendez bien? On est super fiers d'être judéens, nous. Non. Dans l'humilité, il dit ça, nous ne le faisons pas. Et sans doute, car certains Babyloniens sont jaloux quant à la réussite de ces petits Juliens étrangers dans leur pays, etc. Ils sont dénoncés pour sédition. Ils ont l'audace, ces trois-là, vous savez, monsieur le roi, d'adorer, de ne pas adorer les idoles de notre société. Verset 12, « Ils ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne se servent pas de tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Le roi s'enflamme de colère. Son projet englobant de tout contrôler est mis en danger par ces petits judéens. Pourquoi ne peuvent-ils pas jouer le jeu? Et donc, il les rencontre une fois pour encore leur demander de supplier à ce qu'ils demandent. Et on peut imaginer, n'est-ce pas, la pression qu'ils ressentaient. On ne leur demande pas, après tout, de nier leur religion israélite. Non. Mais simplement de reconnaître qu'ici, à Babylone, il faut aussi fléchir le genou devant le roi. Si vous faites ça, on vous laisse tranquille. Pas de souci, vous adorez votre Dieu comme vous le voulez. Oui, la difficulté, ultimement, de faire cela. Ne faites pas toute une affaire pour cela. Après tout, ce n'est qu'un geste symbolique, n'est-ce pas? Tout le monde comprend qu'on va continuer notre vie normalement après. Mais ces trois hommes connaissent les deux premiers commandements du Dieu d'Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, de représentation quelconque. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Car l'Éternel, ton Dieu, Je suis un Dieu jaloux, dit-il. Et donc, devant toutes ces manifestations visibles de puissance, ces croyants plaident allégeance au Dieu invisible. Ils résistent à la pression d'adorer les idoles de la culture ambiante, même si le prix pour cela est cher. Et vous savez, le prix reste encore cher aujourd'hui. Oui, merci Seigneur, c'est encore vrai que dans ce pays, nous avons encore la liberté d'adorer Jésus-Christ sans crainte à ce stade de mourir. Mais toutefois, nous voyons de plus en plus d'indices que notre culture devient intolérante en ce qui concerne ceux qui refusent d'adorer les idoles de cette culture-ci. D'un côté, je pense que nous voyons à notre époque le danger d'un certain nationalisme résurgent qui offre une clarté, une vision unie d'une nation. N'oublions pas que c'est parfois le cas que des États totalitaires sont élus par un peuple démocratique. C'était le cas pour Hitler. Ils offrent stabilité, sécurité, fierté, unité. On peut comprendre que cela attire des votes. C'est l'une des raisons, je pense, que Assad reste populaire et encore au pouvoir en Syrie. Mais le prix de tels États, c'est une loyauté absolue, tant qu'au programme de l'État. Ça, c'est un danger. Mais l'autre danger, c'est ce même désir de tout contrôler qui se manifeste maintenant sous une autre forme, celle de la soi-disant tolérance. Quand notre culture a de plus en plus du mal à tolérer les personnes qu'ils identifient comme étant, selon eux, intolérants. S'afficher donc aujourd'hui contre l'avortement, comme se faisait le prof de philosophie à Lucie en 2015, lors de l'un de ses cours donnés à Luciel, où il argumentait dans son cours que l'avortement est le meurtre d'une personne innocente, bah, bien sûr, ça c'est de rompre avec le consensus. Et donc, il a été licencié, rien que pour ce qu'il a dit. Il y a une connaissance de moi qui avait son compte Twitter suspendu pour 24 heures pour des propos haineux car il voulait défendre les droits des enfants pas encore nés. Twitter a aussi suspendu quelqu'un d'autre, une femme qui refusait d'appeler un homme qui se disait femme comme une femme, parce qu'elle était, il était tout de même un homme. Et donc, dans son compte Twitter, elle parlait de cette personne en tant qu'homme. Mais ce n'était pas de respecter la liberté de la personne qui voulait être connue comme femme. Il y a un autre professeur aux États-Unis, Robbie m'a envoyé un lien hier, qui vient d'être licencié quand il refusait d'appeler une femme un homme. Hein? Licencié pour cela. Même en tapant ce message-ci que je vous donne maintenant sur Word, j'étais surpris, peut-être avec une nouvelle version de Word qui vient de s'installer automatiquement sur mon ordinateur, que mon autocorrigeur, lorsque j'ai tapé les dirigeants du pays, en pensant que ça c'est quand même correct en français, m'a dit « N'est-ce pas mieux d'employer les dirigeants et les dirigeantes du pays pour éviter un langage sexiste ?» Au nom de la tolérance, notre société commence à devenir à beaucoup d'égards intolérante. Si il y a un petit truc que on va mettre sur l'écran de Philippe, le destinataire du chat. Vous connaissez celui-là? Tu peux faire tout ce que tu veux. Ça, notre société dit cela. Chacun sa liberté. Mais ensuite, ici, il y a un enfant. Mais c'est comme si ça, c'est la culture. Et ça, c'est ceux qui sont dans la culture. Si toutefois, ça reste dans le cadre de ce que je veux bien que tu fasses. Liberté, tout à fait. Mais liberté sous les contraintes qu'on décide. Vous sortez de ce cadre-là. Alors, vous n'êtes plus accepté dans notre société. Merci. Ne se pas conformer au politiquement correct, cela commence à coûter de plus en plus cher pour des chrétiens. Mais sachez qu'il y a d'autres idoles, n'est-ce pas? Il y a pluralisme qui demande que nous acceptions qu'aucune religion n'a droit à se proclamer meilleure qu'une autre. Car nous dit-on à chacun sa propre voix, parler de Jésus qu'en mettant le chemin, la vérité et la vie, cela ne suscite pas trop de réactions négatives. Très bien pour vous. Mais ajoutez la deuxième partie de ce que Jésus affirmait, nul ne vient au Père que par moi. Alors ça, c'est de se faire accuser d'intolérance. Voilà pourquoi la démarche de John Chan, un autre sentinelle, n'a pas été tolérée. Pour qui se prend-il, cet homme qui veut proclamer un message à une autre culture? Au nom donc de la tolérance, on ne tolère plus ceux qui ne sont pas conformes avec la pensée pluraliste. La culture nous dit que la religion doit se restreindre au domaine privé de notre vie, n'est-ce pas? On ne doit pas sortir la religion sur la place publique. Et c'est ainsi que nous sommes mal à l'aise, même dans l'église, de parler de Jésus-Christ au travail, à l'école, même dans la famille. Oh non, ça, on n'en parle pas. Mais le message de l'évangile, John Chan a compris, est un message à proclamer à tout homme et toute femme. Pour que chacun puisse être réellement réconcilié avec le Dieu qui les a créés. Sans connaître ce Dieu-là, sans être réconcilié à ce Dieu-là, nous sommes face à un Dieu qui nous juge. Et le chrétien ne peut pas se taire par conséquent. Dernière idole, juste à mentionner avant d'aller, de continuer pour notre deuxième point. C'est le matérialisme, de mettre une importance capitale dans ce que je possède, dans ce que je gagne, dans mon épanouissement ici-bas, mon confort. Peu importe l'honnêteté, l'intégrité que je suis invité à démontrer dans mon travail. Les petits mensonges nécessaires pour avancer. Notre culture comprend très bien cela, c'est normal. Il ne faut pas être plus juste que le pape, on dit souvent. Et on l'est quand même, il faut être raisonnable là-dedans. Dire d'ailleurs, en tant que jeune, que je veux servir le Seigneur, alors ça ne pose pas de problème pour des parents d'un jeune chrétien zélé. Très bien que tu veux servir le Seigneur. Mais dire que je ne voudrais plus poursuivre la carrière pour laquelle j'ai étudié afin d'enseigner la parole de Dieu, alors c'est là, même avec des parents chrétiens, nous ressentons parfois des réactions négatives. Vous devez être fou de ne pas vouloir poursuivre votre belle carrière, non? Je me souviens lorsque je suis arrivé ici, dans cette église. Il y a 12 ans, il y avait une dame qui demandait ce que je faisais. Autrefois, avant de devenir pasteur, j'étais avocat pendant juste quelques années. Et il m'a dit, c'est vrai? Alors, mais pourquoi tu es devenu pasteur? Quelqu'un dans l'église, moi j'étais pasteur. Je regardais un peu comme ça. Mais pourquoi? Quelle perte de possibilités de gagner de belles choses, n'est-ce pas? Peut-être vous écoutez tout cela et vous dites, Oui, franchement, ces chrétiens qui prennent la Bible au sérieux, ils sont fous. J'entends tout cela. Non, j'ai pas envie de ça, moi. C'est quand même démesuré, ça. C'est à l'exagération. Je cherche un truc raisonnable, moi. Mais il faut savoir là, que le récit que nous avons lu ne termine pas au verset 15 avec la menace du roi Nebuchadnezzar. Non, le récit continue avec la délivrance de ces trois hommes. Dans la deuxième application pour nous, sachez que ce Dieu délivre. Faites-lui donc confiance. Verset 15, terminé avec le roi confiant dans sa toute-puissance. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Versets 16 et 18 nous donnent la réponse inattendue de la part du roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Car le Dieu n'est pas un Dieu créé par des hommes, n'est pas un Dieu parmi d'autres en Babylone à manipuler, à contrôler. Non, ce Dieu-ci, c'est le Dieu vivant et vrai qui lui délivre. Et eux, ils croient qu'il le délivrera. On ne sait pas trop d'où vient leur confiance sur cette question-là. Mais ils qualifient leur confiance en soumettant ce qui va arriver à la volonté de Dieu. Verset 18. Sinon, c'est-à-dire même s'il ne nous délivre pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc nous savons en toute chose que Dieu peut nous délivrer. Tu penses, un chrétien aujourd'hui peut dire, je sais qu'il peut me guérir de cette maladie. Je sais qu'il peut me donner cette relation que je cherche depuis tant d'années. Je sais qu'il peut résoudre le conflit relationnel dans lequel je me trouve. Il peut me délivrer de cette dépression qui me guette depuis un certain temps. Mais même s'il ne le fait pas, je le suivrai. Car je sais qu'il est digne de confiance. Même dans l'épreuve, Dieu nous accompagne, chers amis. Dans la fournaise, Nebuchadnezzar était effrayé de voir, on a vu dans les images des enfants, ce quatrième homme, quelqu'un, le texte dit, qui ressemblait à un fils des dieux. Dieu lui-même, présent avec ses trois compagnons. Les flammes ne les ont pas touchées, rien d'eux n'a été brûlé, malgré la chaleur terrible. Non seulement le Dieu est présent, mais il est également puissant pour sauver. Ce n'est pas qu'il sauve d'office de cette manière, chaque fois. Non, plus tard, dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 33, nous entendons parler de ceux qui mourront, oui, pour leur foi. Nous savons qu'il y a d'autres exemples. Encore à notre époque, de telles personnes qui payent pour leur vie, qui payent pour la foi avec leur vie. Mais l'exemple de ces trois hommes nous rappelle que leur Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui délivre. Et c'est ce même Dieu qui se révèle suprêmement en Jésus-Christ. Lui qui avait l'air comme ces hommes, d'être face à une défaite humiliante devant les autorités romaines aux mains de ses persécuteurs, qui est mort. Oui, lui, il est mort sur une croix. Rome semblait être tout puissant. Le diable semblait remporter la victoire. Mais cette mort est transformée en victoire. Il est revenu des morts, il est ressuscité. Et par sa mort, il délivre ceux qui se confient en lui de la mort, du jugement de Dieu, tous ceux qui prennent refuge en lui. À la croix, il prend sur lui-même le jugement qui devait tomber sur nous. sa mort garantit notre délivrance, notre appartenance à son royaume qui demeure le moment où nous croyons en lui, qui continue au-delà de la mort physique jusqu'à l'éternité. Et donc, suite à son exemple, il nous invite à nous charger de notre croix et de le suivre. Oui, suivre Jésus, c'est coûteux, chers amis. Résister aux idoles de notre culture est demandeur. Mais sachez que notre Dieu est puissant pour nous délivrer. Quelle est, à la fin de Daniel chapitre 3, la réaction du Nebuchadnezzar? Oh, il n'y a aucun autre Dieu, dit-il, qui puisse délivrer comme lui. Il n'est pas encore converti. On attend le chapitre 4 pour sa conversion. Mais il affirme que le Dieu d'Israël est puissant pour délivrer. Je vais terminer, chers amis, en priant, mais je vais vous relier un ou deux versets de Romains chapitre 8 que Jonathan avait lu pour nous, avant de, par la suite, célébrer la scène ensemble. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous invite à prier avec moi. Combien, Seigneur, nous te louons pour Jésus, qui a connu la mort pour que nous puissions connaître ta délivrance. Combien nous te louons, Seigneur, que en lui, par celui qui nous a aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Et quoi qu'il arrive, quoi que ça nous coûte, peu importe